Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui a la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Dieu créateur, Dieu de l'univers, nous nous plaçons devant toi ce matin. Bénis ces instants. Amen. Le psaume 46, les versets 1 à 4. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. enfants, vous allez pouvoir rejoindre vos groupes ce matin. On va prier pour vous. Dieu Père Créateur, on aimerait te remettre à chacune des âmes qui vont aller apprécier leur enseignement, te rencontrer dans un langage qui est adéquat pour eux. Par nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne matinée. Psaume 46, les versets 5 à 8. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob.
Je sais tes espoirs.
Psaume 46, 9 à 12. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous, l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est le caté du dimanche qui va nous quitter. On peut s'asseoir. Je vais prier pour eux. Dieu créateur, Dieu de l'univers, nous voulons te confier la génération du caté du dimanche, que tu sois avec eux, les accompagne, que ton esprit les inspire, les aide à accueillir tes paroles pour eux. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 22, la première partie du verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son esprit qui peut nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Dieu créateur, Dieu de l'univers, nous voulons nous placer devant toi pour recevoir ce cadeau gratuit, ce salut, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que tu nous as offert. Nous voulons le rendre significatif pour nous dans cet instant d'où nous nous rappelons le souvenir. Amen. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Au centre des plateaux, vous avez des gobelets de couleur qui sont du jus de raisin. Autour, vous avez du vin. Et puis, je vous propose ce matin de garder les éléments et de prendre tous ensemble après. Ensuite de quoi, nous aurons un moment de prière communautaire. Pour ceux qui souhaitent la coupe, levez la main et Philippe viendra vers vous. l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Dieu Père éternel, nous voulons venir à toi et te remercier pour ce sacrifice de Christ sur la croix. Merci pour avoir accès à toi.
Cher Seigneur, merci pour ta grâce si ample, si généreuse, si bouleversante. Merci pour l'intimité avec Dieu que tu as inaugurée et dans laquelle nous pouvons nous reposer, non pas en vertu de quoi que ce soit qui serait à nous, mais grâce à toi. Et nous te disons ensemble toute notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci pour toi, immensément, Seigneur. Tu as donné la vie pour moi et pour tous ceux qui sont là. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne comprendra jamais, Seigneur, la souffrance que tu as endurée sur la croix pour nous sauver, pour nous réconcilier avec ton Père. Mais Seigneur, je ne peux pas oublier non plus la souffrance du Père qui a dû abandonner son Fils parce que ses yeux sont trop purs pour voir le monde et Jésus représentait le péché du monde. Seigneur, ces souffrances dont on ne peut même pas comprendre, qu'on ne peut pas vraiment comprendre, mais elles nous montrent à quel point tu nous aimes et que tu voulais passer l'éternité avec nous. Seigneur, c'est un mystère que j'arrive pas à comprendre. C'est ce que tu nous dis, c'est pour ça que je vais t'apporter toute la louange et la reconnaissance de mon cœur. Au nom de Jésus, Amen.
faire faible parmi les faibles jusqu'à mourir sur la croix. Et tu as, contrairement à notre monde, pas besoin d'écraser les faibles pour t'élever. Tu n'as pas besoin de les mépriser, mais tu les as relevés. Merci pour cette œuvre à la croix pour nous. Amen.
Amen. Éveille-toi, mon âme.
Bonjour à chacun, à chacune. J'aimerais saluer ce matin Ruth Hélène et Daniel Mattioli. Pour tout vous dire, tout d'un coup j'ai un petit peu de pression parce que Ruth et Daniel ont été nos formateurs, Heidi et moi, en dernière année de formation à l'IBG. Donc si jamais vous les voyez pleurer, vous saurez pourquoi ils ont échoué. Mais enfin, toujours est-il que si je suis là ce matin, quoi, 22 ans plus tard, truc du style, vous n'y êtes pas pour rien les amis. Et la reconnaissance, elle est grande pour vous. Daniel et Ruth ont été pasteurs à Aunay, où j'ai été leur stagiaire. Puis plusieurs années du côté de Montpellier, dans un beau ministère. Et depuis quelques semaines, maintenant vous êtes à Rome, c'est juste, en transition vers Rome, où vous travaillez avec une organisation qui travaille à la réhabilitation des personnes qui sont prises dans les réseaux de traite d'êtres humains. J'ai eu l'occasion déjà de vous parler de quelques voyages que j'ai faits également avec une autre organisation en Thaïlande. Daniel et Ruth sont eux actifs ici en Europe, d'abord en région Montpellier-Rennes, et puis tout bientôt là sur Rome, où les besoins sont immenses, on va le dire comme ça. N'hésitez pas tout à l'heure à les saluer, à échanger avec eux. Quelques-uns les connaissent, je crois qu'ils sont aussi accompagnés par la société biblique, c'est juste ? La société évangélique, excusez-moi. C'est juste, merci, merci. Nous entrons ce matin dans l'Avent, 4 dimanches jusqu'à Noël, où nous célébrerons la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, puis notre Sauveur. Ne trouvez-vous pas que l'Avent est un peu étrange cette année ? Trouvez-vous pas que l'Avent est un peu étrange cette année ? Des conflits armés d'une violence phénoménale déchirent le monde. Bien sûr, la situation en Israël, en Palestine. Bien sûr, l'Ukraine. On parle si peu de ce qui se passe depuis des semaines en RDC, dans la région des Grands Lacs. Un drame absolu. On peut parler d'un climat social tendu. Alors, je sais, on est en Suisse, puis en Suisse, on est à Genève, puis à Genève, on est en banlieue de Genève, à Meyrin, où les choses sont plutôt douces. Mais le climat social est extrêmement tendu, au point d'entendre plusieurs parler de fin de civilisation. Alors je sais, ça fait mal quand on le dit, on n'est pas très à l'aise, on n'ose pas trop en parler, mais plusieurs, et pas des moindres, parle de fin de civilisation. Connaissez-vous le mot roman de l'année 2023 ? Chaque année, depuis des décennies, la Suisse romande, comme la Suisse alémanique, choisit le mot de l'année. Le mot roman pour 2023. Vous l'avez entendu cette semaine ? C'est la première fois que ce n'est pas un mot technique pour désigner quelque chose de concret, de pratique, mais un mot tiroir. Et le mot roman de l'année est le mot décombre. Ouais, ça fait mal, hein ? Moi, j'ai de la peine à m'en remettre. J'ai entendu ça cette semaine, je digère encore. Décombre. Et puis, il y a ces situations plus proches de nous, y compris dans notre communauté locale, des situations personnelles, des situations de santé qui nous touchent plus qu'on peut le dire et où on a si peu de prise, sinon un peu de prière solidaire. ne trouvez-vous pas que le temps de l'Avent est un peu étrange ? Alors je sais, on pourrait faire semblant, on pourrait se cacher derrière des lumières scintillantes et quelques paillettes, mais je ne veux pas le faire. Je ne me cacherai pas. Parce que ce n'est pas comme ça que je le vis, et je ne voudrais pas vous donner l'impression que parce qu'on est chrétien, on peut vivre comme si rien ne nous touchait. Tout cela fait qu'on n'a pas forcément le cœur pour les fêtes. Il y a aujourd'hui beaucoup de craintes, d'inquiétudes qui s'expriment. Elles nourrissent des angoisses, elles nourrissent des colères qui transparaissent dans les excès qui agitent notre actualité. Elles transparaissent sur les réseaux sociaux où on trouve tellement de réactions outrancières. Il y a une certaine lourdeur dans tout ça et on peut se sentir submergé. Et si jamais vous vous sentez submergé, bienvenue au club. Venez en parler, on va prier, on va échanger ensemble. On peut se sentir submergé. Aujourd'hui, on a peur du lendemain, des fins de mois difficiles. On entend de plus en plus, aussi chez nous en Suisse, cette formule choc. La fin du monde, c'est la fin du mois. On a peur du spectre du chômage. On craint de ne plus pouvoir nourrir sa famille. On a peur de ne pas être à jour de facture. Comment on va payer cette fichue assurance maladie ? Comment on va faire ? Quand déjà à la fin du mois, il reste 50, 60 francs, comment on va faire ? Aujourd'hui, on a peur de l'étranger, de celui qui est différent, qui vient d'une autre culture, d'une autre religion ou simplement d'un autre pays. Et c'est une peur qui conduit à la désignation de boucs émissaires, l'étranger. Et c'est une peur qui réveille la bête immonde de l'antisémitisme. Aujourd'hui, on a peur pour l'avenir de la planète. On s'inquiète à juste titre du dérèglement climatique. C'est très présent chez les jeunes générations, mais pas que. Avec cette impression tenace que malgré les nombreux signaux d'alarme, rien ne bouge vraiment et que l'inaction climatique a encore de beaux jours devant elle. Lisez, écoutez l'interview de cette représentante importante organisatrice de la COP28 qui démissionne hier parce que sous prétexte des rendez-vous de la COP28, certains pays organisateurs signent des contrats phénoménaux pour de nouveaux échanges gaziers. À la COP28, à l'endroit où on dit qu'il faut réduire. Et cette femme, la seule jusqu'ici, a le courage de démissionner parce qu'elle dit « nous n'y arrivons pas ». Et pourtant, chaque dimanche depuis ce 3 décembre, nous allons célébrer le temps de l'Avent et nous allons évoquer l'attente et l'espérance. Mais en quoi l'espérance chrétienne peut-elle être une réponse à toutes nos craintes ? À ce qui nous traverse, à ce qui nous submerge. Le texte de l'Ancien Testament de ce dimanche nous parle d'espérance. Il contient un verset qui est cité dans un récit de Noël, c'est celui de la visite des mages d'Orient. Et ce verset, c'est la réponse que les maîtres de la loi leur donnent quand les mages leur demandent où doit naître le roi des Juifs. Et alors, les maîtres de la loi, des pharisiens, des théologiens de l'époque, répondent ceci. « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom, le peuple d'Israël. » les pharisiens, ces théologiens, citent le prophète Michée dans l'Ancien Testament. Le prophète Michée qui annonce donc le lieu de naissance du Messie. Le Messie naîtra à Bethléem. En tout cas, c'est comme ça que les maîtres de la loi comprennent, interprètent ce texte. Et c'est en général tout ce qu'on lit de Michée autour de Noël. Le verset 1 du chapitre 5, et encore, généralement, on ne va même pas au bout du verset. Alors ce matin, on va en lire un peu plus. Mais avant de le lire, je vous propose un très rapide voyage dans le temps. Replongeons-nous courtement dans le contexte de l'époque. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël s'est scindé en deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Ça s'est passé, ça, plusieurs siècles auparavant, juste après le règne de Salomon, le fils de David. Michée, c'est un prophète influent. Il vient d'un petit village, mais c'est un prophète influent. Il a reçu de Dieu des messages à transmettre aux deux royaumes, Israël et Juda. Il faut dire que toute la région est fébrile à ce moment-là, parce que l'ogre assyrien dévore tout sur son passage. C'est un ravage. Rien ne semble pouvoir arrêter l'expansion de cet empire assyrien qui est désormais aux portes d'Israël. Et il règne dans le pays, dans les deux royaumes, comme un parfum de fin du monde. D'autant qu'il n'y a pas seulement les dangers qui viennent de l'extérieur, les Assyriens, mais la situation sociale, spirituelle des deux royaumes est catastrophique. La gloire d'antan, au temps de Salomon, est tellement lointaine maintenant. L'injustice règne dans le pays. Et Michée, le prophète, dénonce l'injustice avec force. Au nom du Seigneur, il mène un réquisitoire contre les riches, contre les classes dirigeantes. Ce n'est pas politique, ce n'est pas syndical, c'est au nom du Seigneur. Il dénonce les riches propriétaires qui accaparent les terres, qui recourent à la fraude et à la violence pour arriver à leur fin, dans leur appétit de posséder, un appétit qui est sans limite. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Il dénonce aussi la complaisance des classes dirigeantes, les magistrats, les prophètes, la religion, des responsables qui sont censés donner l'exemple et qui pourtant cèdent à la corruption et font preuve de favoritisme. Ça vous rappelle rien ? Je ne sais pas si Michée aurait défilé un 1er mai, mais son réquisitoire trouve d'étonnants échos aujourd'hui. Dans leur dénonciation, les prophètes bibliques gardent malheureusement une cruelle actualité. Quand je lis des choses écrites aussi pour notre temps, parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Mais les prophètes bibliques ne gardent-ils pas aussi une pertinence quand ils viennent nous parler à nous d'espérance ? Comme c'est le cas de Michée, dans le chapitre 5 de son livre, d'où est tirée la parole dite aux mages dans l'Évangile, et que je vous invite maintenant à lire dans son contexte entier. Michée 5, 1 à 5. « Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur. Tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. le Seigneur abandonnera son peuple en attendant le moment où la femme qui doit enfanter enfantera. Ceux qui auront survécu à l'exil rejoindront alors les autres Israélites. Et lui, il se dressera, il sera le berger de son peuple par la puissance du Seigneur et par la présence majestueuse du Seigneur, son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix. Si les Assyriens viennent envahir notre pays et pénètrent dans nos palais, nous enverrons contre eux un grand nombre de chefs. Grâce à leurs armes, ils imposeront leur pouvoir à la terre d'Assyrie, pays de Némrod. C'est le chef promis qui nous délivrera des Assyriens s'ils franchissent notre frontière et envahissent notre pays. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Alors, lu dans son contexte, la parole qui a été citée au mage de l'Évangile, cette parole, elle prend un relief différent. Il est frappant de voir combien la prophétie de Michée est liée au contexte immédiat de son époque. Je me rends compte qu'on ne s'en rend pas compte en ne lisant que le verset 1. Mais dans ce texte en entier, on perçoit bien la peur face à un envahisseur assyrien. Et même la perspective d'un exil semble inéluctable. On dit dans ce texte que le Seigneur va abandonner son peuple pour un temps. Rendez compte ? Celui qui a dit qu'il n'abandonnerait jamais son peuple va l'abandonner pour un temps. Il y a des textes étonnants dans l'Écriture. Il faut savoir reconnaître que tout n'est pas toujours facilement compréhensible du premier coup et puis qu'il y a des trucs qui s'entrechoquent. Le Seigneur va abandonner son peuple pour un temps. Puis en même temps, on perçoit l'espérance d'une délivrance du Seigneur. On perçoit l'aspiration à une restauration. On perçoit qu'on attend une paix qui va se retrouver. Et cette espérance, elle se focalise sur un enfant, issu d'une famille ancienne, qui naîtra à Bethléem. Cet enfant deviendra le berger du peuple. Nous dirons le bon berger. Pour un connaisseur de la Bible, la mention de cette famille ancienne de Bethléem, elle ne peut faire référence qu'à la lignée de David, le grand roi. D'où doit être issu le Messie, le libérateur choisi par Dieu. Ce libérateur deviendra un berger pour son peuple. Quelle était donc la signification de ce texte pour les contemporains de Michée, pour les premiers destinataires? Qu'est-ce qu'ils pouvaient entendre, les premiers destinataires? Pas nous, mais 3000 ans en arrière. Ils pouvaient entendre « le malheur vient ». Et ça va secouer sec. Le malheur vient. L'exil est inéluctable. Mais un immense espoir demeure au-delà de l'exil par un enfant. Une folle espérance. Dieu suscitera de la lignée de David un libérateur pour son peuple. Alors pour le tout petit nombre, restés fidèles à Dieu dans ce contexte, il y avait là une source d'espérance au milieu d'une si grande détresse. Et les années ont passé après cette prophétie. Les siècles ont passé. Il n'y a jamais eu vraiment de retour de l'exil en Assyrie. Il y a bien eu un retour de l'exil de Juda à Babylone, quelques décennies plus tard, mais la gloire d'antan n'a jamais été retrouvée. jamais. Et donc, l'attente d'un libérateur, promis par ce texte, l'attente du libérateur, elle est restée entière. D'ailleurs, on sent bien dans le texte de Michée que la perspective, elle déborde du contexte immédiat et unique d'Israël. Parce que le texte que nous avons lu a une dimension universelle. Le berger à venir portera son action, dit le texte, jusqu'aux extrémités de la terre. Pas juste pour vous, royaume du nord et royaume du sud. Jusqu'aux extrémités de la terre. La dimension universelle. Alors, au temps de Jésus, un texte comme celui de Michée, 8 siècles plus tard, exprimait l'attente messianique au moment de l'arrivée de Jésus. Le contexte sociopolitique avait changé. On est 8 siècles plus tard. Ce n'étaient plus les Assyriens ou les Babyloniens qui faisaient peur, mais c'étaient les Romains. Les soupçons de corruption, de collusion avec l'envahisseur étaient forts à nouveau. La méfiance à l'égard des classes dirigeantes alimentait la grogne et la révolte du peuple. L'attente d'un libérateur, elle était importante. Et les évangiles voient alors dans la naissance de Jésus le véritable accomplissement de la prophétie de Michée. Un second effet qui se coule. La prophétie de Michée, elle s'accomplit maintenant avec l'arrivée de Jésus. Mais contrairement à l'attente de beaucoup, Jésus n'est pas venu en libérateur politique. Caramba, encore raté, on ne sait pas lire ces prophéties. Jésus n'est pas un libérateur politique. Il est un libérateur spirituel. Il vient détacher les liens qui nous lient à l'intérieur. Peu nombreux sont ceux qui reconnaîtront en Jésus le berger dont parle Michée. Les chefs religieux le combattront. Les chefs politiques le combattront. Le peuple appellera à le crucifier. Quelques-uns y ont cru. Quelques-uns. Une brochette. Et non sans difficulté. Mais de ce petit groupe de disciples est née l'Église. Et la bonne nouvelle s'est répandue de génération en génération jusqu'à nous ce matin, dimanche 3 décembre, premier dimanche de l'Avent. De ce texte et de sa mise en perspective, je relève une chose, une seule. L'espérance du croyant rencontre nos peurs. Pour les croyants, au temps de Michée, les peurs, elles se nommaient Assyrie, exil, guerre, famille déchirée, mort. Leur espérance était alors celle d'un libérateur, d'un rétablissement, d'une protection, d'une paix retrouvée. L'espérance du croyant rencontre nos peurs. D'ailleurs, peut-on concevoir l'espérance en dehors de la peur? Qui ne craint rien n'a guère besoin d'espérance. L'espérance chrétienne est plus grande que nos craintes. Il ne s'agit pas de se construire chacun, chacune, une petite espérance à soi pour calmer nos craintes personnelles. Ça serait de la superstition. Mais au cœur du message de Noël, il y a l'affirmation d'un Dieu qui se fait proche de nous, avec nous, pour nous. Un Dieu qui devient l'un des nôtres et qui partage notre condition, y compris celle de la peur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Au cœur de l'espérance chrétienne, se trouve la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, la vie nouvelle, le pardon, la paix. Et si vous n'avez pas encore accueilli cette vie nouvelle, si vous n'avez pas encore commencé de goûter à la paix, approchez-vous de Jésus-Christ Et passez pas à côté de l'occasion. Ça compte un dimanche de l'Avent. Approchez-vous de Jésus-Christ. L'espérance qui rencontre nos peurs, c'est le Christ qui nous rejoint dans nos détresses. Il s'est fait pauvre, il a accepté d'être rejeté, il s'est rendu solidaire de l'humanité, il est avec nous. Moi, je suis frappé que l'Église primitive n'ait jamais dit « Voyez ce que devient le monde ». Ça, c'est nous. Voyez ce que devient le monde. L'Église primitive, elle a dit « Regardez ce qui est venu dans le monde. Regardez ce qui est venu dans le monde. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait proche. » Et j'ai donc la conviction que l'Évangile a des réponses à proposer à nos peurs, aux peurs de nos contemporains. Sur la peur du lendemain, sur la peur des fins de mois difficiles, je ne vais évidemment pas dire que Jésus va remplir votre compte en banque, même si malheureusement certaines théologies de la prospérité le prétendent. Mais l'Évangile montre bien que Dieu ne se soucie pas que de notre âme. L'incarnation, Dieu qui prend chair humaine, ça c'est la preuve. L'espérance de la résurrection de la chair au dernier jour, c'en est la preuve. Comme dans la prière que Jésus a enseignée, où la première demande qui nous concerne dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Dieu ne se soucie pas que de notre âme. Si on choisit un mode de vie simple dans l'esprit de l'Évangile, si on n'oublie pas la générosité, on peut faire confiance à Dieu pour tous les domaines de notre vie, y compris le domaine matériel. Face à la peur de l'étranger, de celui qui est différent, l'Évangile nous apprend que la peur et la haine ne sont jamais une solution et que la seule solution, elle est dans l'amour. Jésus va, lui, nous inviter à aimer nos ennemis, ce qu'il a fait. Il est venu pour tous, il est mort pour tous. Colossiens 1:20, Dieu a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Alors l'espérance de la réconciliation, nos engagements pour la réconciliation, nous conduisent sur des chemins d'ouverture aux autres, de paix et de pardon. Enfin, quant à la peur pour l'avenir de notre planète, on peut évidemment se référer à la doctrine de la création qui nous incite, et nous l'avons pas assez entendu visiblement, à respecter et à protéger l'œuvre du Créateur. Mais l'espérance chrétienne a aussi quelque chose à nous dire sur ce sujet, parce qu'on oublie parfois que l'espérance de la résurrection, c'est pour toute la création. Romains 8:21, la création aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Cette perspective, elle conduit à la fois à respecter et à préserver cette terre qui est destinée au salut et à éviter toute idolâtrie de la nature, comme on la retrouve dans certaines postures écologistes extrêmes. Nous attendons le bonheur que nous espérons. Ça, c'est nous ce matin. Nous attendons le bonheur que nous espérons. Ça veut dire qu'on ne l'a pas, pas complètement. Le jour où se manifestera la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes un peu comme les premiers auditeurs de Michée. Nous attendons. Nous ne savons pas exactement ce qui va se goupiller à la fin de la fin, sauf qu'à la fin de la fin, nous savons qui est le grand vainqueur. je conclus. L'espérance chrétienne, elle est pertinente pour aujourd'hui. On en a besoin. Il faut qu'on se laisse rejoindre. Il faut aussi qu'on se laisse surprendre. Quand l'espérance chrétienne est réduite à un ensemble de doctrines ou juste à un schéma eschatologique, elle n'est pas capable de nous émerveiller et de nous surprendre. Dans la perspective biblique, l'espérance, ce n'est pas un schéma, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. L'espérance, c'est une personne. C'est l'enfant et le berger dont parle Michée. C'est Jésus-Christ dont parlent les évangiles. Se laisser surprendre par notre espérance, c'est laisser le Seigneur nous rejoindre maintenant sur notre chemin, comme il l'entend, pas comme nous le voudrions. Sinon, on risque bien de manquer les rendez-vous que le Seigneur nous fixe, comme tant de contemporains de Jésus qui n'ont pas su voir s'accomplir sous leurs yeux leur espérance, parce qu'ils ne se sont pas laissés surprendre. Mes amis, la vie est dure. La situation est compliquée dans tous les domaines. Peut-être pour nous-mêmes encore, pire à l'intime. Mais tout n'est pas que décombres et désastres. Tout n'est pas que ravage. Oui, l'espérance chrétienne, elle est pertinente pour aujourd'hui. Et cet avant 2023, il est là pour nous le rappeler, particulièrement dans le contexte agité, tortueux et parfois anxiogène qui est le nôtre. Saurons-nous accueillir cette espérance, cette personne, l'enfant et le berger. Amen.
j'ai tant besoin de toi.
La vie de l'Église, non, il y a un truc super chouette, vendredi prochain, un concert avec Antidote, ça déchire sa race, et puis c'est... Moi franchement, dans le paysage des groupes chrétiens contemporains, ils sont vraiment pertinents, des beaux textes, une belle émotion, n'hésitez pas à inviter, c'est moderne, c'est pertinent, c'est vachement cool. Voilà. Le 17 décembre, on a... un apéritif dînatoire qui s'organise avec Claire Lise. À l'extérieur, vous verrez, il y a un panneau avec des trucs à prendre et puis que vous amenez après. Donc prenez le ticket, vous faites, puis vous amenez le ticket après le 17. Si j'ai bien compris, c'est comme ça se passe. Si vous avez des questions, c'est Claire Lise. Et puis elle a même un numéro de téléphone si tout d'un coup vous avez besoin. Donc voilà, ça c'est pour le 17. Et pour nous maintenant, nous allons nous lever pour la bénédiction.
Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ».
Que celui qui entend ces paroles dise « Viens ».
Que celui qui a soif vienne.
Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement.
Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre.
Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre.
Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre,
Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la vie sainte décrit dans ce livre.
Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui,
je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi.
Viens, Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. »
Je vous propose un petit chant bonus pour la fin, pour vous accompagner pour la soirée.
Je suis mon Seigneur et mon maître, sans jamais.
Thank you.